le grand amour, la passion, la folie, Tinder, Grindr, Branda, tout dépend de l'orientation. Unique amour, polyamour, rencontre, rupture, flamme, fureur, malheur, c'est compliqué la vie.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Sur un plateau de théâtre, la vie, cinq femmes et un homme, et pour ceux qui ont lu le texte avant de voir la pièce, cette phrase de Dostoïevski en épigraphe, les gens ne sont créés que pour cela, se torturer. Bonjour Jean-René Lemoine.
Bonjour.
Ces quelques mots pour camper le décor de votre pièce Vent contraire, dont vous êtes à la fois l'auteur et le metteur en scène à la MC93 de Bobigny dans la banlieue parisienne. Six personnages dans la dureté de la vie et de l'amour, ou de l'amour et de la vie. Ça pourrait être le résumé.
Six personnages en quête d'existence, en quête de survie, en quête d'amour, en quête de désir et en quête d'eux-mêmes et en perte d'eux-mêmes.
Amour sombre. Est-ce que c'est votre vision des relations humaines aujourd'hui ?
C'est la vision qui s'est imposée dans l'écriture. Je crois que je n'avais pas de point de vue avant de commencer l'écriture et qu'il y a quelque chose qui s'opère en écrivant et personnellement, moi, je ne choisis pas ce qui arrive dans l'écriture. Et ces personnages sont arrivés avec ce désespoir, avec ce regard extrêmement tragique sur le contemporain, et j'aurais préférer peut-être, avant de commencer l'écriture, ne pas avoir ce regard. J'aurais préféré penser qu'il y avait des choses, comment dire, plus positives qui surgiraient. Et force est de constater que l'écriture m'a emporté et que le point de vue que j'énonce, il est forcément très subjectif, mais il est quand même assez amer, tout en gardant une puissance de vie à ces personnages. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il y a de l'espoir dans leur désespoir.
Mais vous décidez d'écrire quand même, ça ne vous saisit pas. C'est quoi le point de départ d'une pièce comme celle-ci ? À quel moment vous vous mettez devant votre machine, devant votre calepin ?
Pour tout vous dire, c'est un camarade à moi qui s'appelle Florian Sidbon, qui dirige une école de théâtre, et qui m'avait demandé d'écrire pour six de ses élèves pour un travail de fin d'études. Et donc, le point de départ, c'était six élèves.
Des jeunes.
Oui.
Alors que les personnages de la pièce sont plutôt plus âgés, et on a l'impression que l'absence de romantisme, l'absence des premières fois, ou le souvenir très très lointain des premières fois, est présent.
Ça fonctionnait avec les jeunes et ça fonctionne avec les gens plus âgés. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai décidé moi de monter la pièce, j'ai choisi de la monter, on va dire, avec des gens de ma génération, de m'y impliquer de façon beaucoup plus intime et avec ce que je connaissais. Mais quand je l'ai vue faite par les jeunes, ça racontait d'autres choses, mais ça racontait également la fureur, le désir de liberté et comment trouver son chemin dans un monde particulièrement difficile.
Donc ce n'est pas un effet de l'âge, si ces personnages sont terriblement désabusés, abîmés par la vie, etc. C'est plutôt un effet du monde, aujourd'hui.
J'ai l'impression. Alors naturellement, quand on les voit incarnés par les personnages, par les acteurs qui les jouent dans la pièce qui se joue à Bobigny, il y a aussi une réflexion sur la maturité, une réflexion sur le temps qui passe. Mais j'ai l'impression que ce qui est raconté là est d'une certaine manière intergénérationnel. Et pour revenir à votre question, c'est le noyau de l'écriture a été écrire pour cinq femmes et un homme. Et puis après, tout a surgi comme si il y avait une urgence de raconter quelque chose que je ne l'étais pas encore complètement formulé, que je n'avais pas encore osé complètement me formuler, et que l'objet de la commande a fait jaillir cette histoire comme un geyser.
Alors Jean-René Lemoine, vous citez Dostoïevski en épigraphe. Vous êtes haïtien d'origine, vivant à Paris depuis longtemps, mais vous avez aussi vécu dans beaucoup de pays européens. Est-ce que les sentiments, l'amour et ses impasses sont universels ? Vous semblez dire que oui.
Oui. Et comment dire ? La fureur de l'amour est quelque chose du, enfin, je sais pas si c'est universel. En tous les cas, c'est quelque chose qui me, que j'ai beaucoup observé et sans doute également pratiqué certainement.
La fureur de l'amour et du désamour aussi.
Oui, mais c'est la même chose. Mais je ne pense même pas que cette pièce parle d'amour. Cette pièce parle de fureur amoureuse et de fureur du désamour. Cette pièce parle de ce qu'on appelle en italien l'innamoramento, l'acte d'être amoureux, qui n'est pas aimé. C'est-à-dire, c'est dans l'acte d'être amoureux, il y a toute la dimension du fantasme et la manière dont on recrée la personne qu'on aime. Donc, est-ce que c'est véritablement de l'amour ou est-ce que c'est l'illusion de l'amour? Et cette chose me passionnait.
En tout cas, tous les mots sont écrits et tous les mots sont prononcés dans le spectre de l'amour, des amours, illusion de l'amour, qui va de la baise à la passion absolue.
Oui, c'est ça, c'est ça. Comment dire, il y a l'amour passion, il y a l'amour hystérique, il y a l'amour sexuel, et puis surtout il y a l'amour possession, le fait de vouloir se donner absolument ou de s'approprier l'autre. Donc il y a aussi la mort. Vous voyez le lapsus. Il y a aussi l'amour comme marchandise, parce que la notion de marchandise, on y reviendra peut-être, est quand même très très importante dans
Oui,
cette
parce qu'on
pièce.
parle beaucoup d'argent dans cette pièce. Alors,
Oui.
on entendra quelques extraits de Vent contraire dans l'émission, mais tout d'abord, Mylène Farmer. On entend son album annoncé, on attend son album annoncé pour début décembre, mais on l'entend aussi dans votre spectacle. C'est un peu la bande-son de Vent contraire. Mylène Farmer sur RFI, tube absolu que ce titre désenchanté que l'on entend dans votre spectacle, Jean-René Lemoyne, Vent contraire. Et visiblement, vous aimez les contrastes, hein, parce que de Dostoïevski à Mylène Farmer, faut le faire.
Mais je pense qu'on peut aimer Mylène Farmer et lire Deleuze, parce que ce n'est pas incompatible. Je ne sais plus qui disait que dans une chanson, il y a comme un concept philosophique qui est énoncé en 3 minutes, et ça m'intéresse, et de passer par les arts populaires, c'est quelque chose, et de les juxtaposer avec comment dire la fureur de la vie, avec ce qu'on essaye de mettre de plus élevé dans l'écriture, je pense que c'est presque nécessaire, en tout cas pour moi.
Et Mylène Farmer donne le titre de votre pièce, Vent contraire.
Dans ces vents contraires, comment s'y prendre? C'est elle qui donne le titre. Et alors là encore, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je n'avais pas décidé ça en amont de l'écriture. Et tout à coup, je me suis dit, mais dans cette chose très sombre qu'on va raconter, il faut qu'il y ait à un certain moment comme un interlude, comme une espèce de respiration pop. Et elle est arrivée comme ça. Et elle a donné son titre.
Mais vous êtes fan? Vous dansez toutes les nuits sur Mylène Farmer?
Non, une nuit sur 100.
Une nuit sur... C'est pas mal,
ouais, oui.
Déjà. Ça fait 3 fois dans l'année. En tout cas, les contrastes, vous aimez cela, Jean-René Lemoyne, parce que si on parle du registre dramatique de la pièce, il y a la tragédie, on l'a suffisamment dit, mais il y a aussi la comédie. Il y a des moments très très drôles dans le spectacle, presque un petit côté vaudeville. Est-ce que vous le revendiquez?
Absolument.
Dans ce ballet de gens qui s'aiment, se détestent, se trompent, se croisent et se retrouvent.
Absolument. Il y a du vaudeville, il y a du grand guignol. Il y a pas de porte qui claque, mais il y a des portes miroirs qui tournent dans le spectacle. Mais parce que il y a quelque chose dans le tragique amoureux, il y a quelque chose de profondément ridicule dont je ne critique pas les personnages, je parle presque de moi-même, mais dont on ne se rend absolument pas compte quand on vit la situation. Mais après, quand on repense à ce qu'on a pu faire dans certaines situations amoureuses, moi, je peux pas m'empêcher de rire de moi-même. Et j'avais envie de mélanger cette chose. Et aussi, le rire permet de supporter la tragédie qui arrive très vite, de supporter le constat humain qui est montré dans cette pièce. Et il est comme un, comment dire, comme un coup de crayon, comme un contraste qui permet d'aller très très loin dans la, comment dire, dans la description de l'inhumain.
Je ne l'aime plus, je n'en veux plus. Ce sont les premiers mots de la pièce. C'est comme un couperet, on est bien là dans le tragique. Est-ce qu'on peut imaginer plus tranchant, plus direct? Et est-ce qu'une première réplique s'annonce comme ça, toute seule, ou se travaille énormément?
Ça, c'est un mystère. Elle s'est annoncée toute seule. Alors que veut dire le travail? C'est-à-dire que je peux passer 3 jours à ne rien écrire et à chercher la première réplique, mais je préfère ne pas en écrire 50 et attendre que la première vienne. Et c'est vrai que cette première réplique était le résumé du spectacle, parce que il y a à la fois ce rapport à l'amour et ce rapport à la possession et au rejet de l'objet.
En même temps, on ne peut pas faire plus simple. Je ne l'aime plus, je n'en veux plus. Tout le monde a prononcé une phrase comme celle-ci.
Je ne sais pas si tout le monde l'a prononcée, mais pour moi, c'est la dimension du haïku qui fait que peut-être, faute de l'avoir prononcée, tout le monde peut la comprendre.
Première réplique, première scène, noire. Deuxième scène, Rodolphe et Marie, joués par Alex Descas et Nathalie Richard.
Tout faire ensemble, il faut tout faire ensemble. Mettre la table ensemble, aller se promener ensemble dans les parcs, revenir ensemble dans les trains bondés. La promiscuité de cette ville, ses corps écrasés dans les rames, se mettre au lit ensemble, s'embrasser, se caresser, jouir ensemble.
Marie,
tu veux toujours m'attendre pour jouir? Tu es un éjaculateur en différé. Ton abnégation pour mon plaisir, tes caresses besogneuses, ton corps brûlant comme une chaudière, moite, collant, vissé à moi, tes cuisses cadenassées au miel, mon corps a besoin de vacances, Rodolphe, de vacances, tu comprends?
Marie.
Nous vivons, nous avons vécu une illusion. Je ne veux plus du petit bisou le matin. Je ne veux plus ouvrir le robinet pour couvrir le bruit de mon caca. T'entendre frapper à la porte de la salle de bain et me dire « je vais aller acheter le pain, ma chérie ». Je ne veux plus penser qu'il faut que je prépare le thé.
Marie.
Nathalie Richard dans Vent contraire, où l'on entend Jean-René Lemoyne à la fois la fureur et le trivial, là aussi contraste. Parce que la fureur se dit par le trivial, ou le trivial génère de la fureur?
La fureur peut se dire par le trivial, et je pense surtout que le poétique peut arriver aussi par le trivial. Ce que j'ai recherché dans Vent contraire, ce n'est pas d'être dans le réalisme, c'est d'être à un certain moment dans la langue, mais j'ai commencé par la langue la plus crue.
Marie, c'est la femme qui quitte. Elle veut respirer, on l'a entendu. Elle veut voyager, mais elle n'est pas le seul personnage féminin. Et vous l'avez dit, il y a cinq femmes et un homme pour les raisons de la commande. Et en même temps, je me suis laissé dire que ça vous convenait bien de portraiturer des femmes.
Oui, les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas forcément par hasard. Et sans doute que cette commande d'un texte avec cinq femmes et un homme m'est arrivée parce que depuis longtemps, j'avais envie de l'écrire. Parce que je crois que j'écris beaucoup sur le féminin, et que que ça me passionne de rendre les femmes protagonistes, ce qu'elles ne sont pas forcément si souvent que ça dans le répertoire théâtral, qu'il soit classique ou même contemporain, et qu'il y a quelque chose encore à écrire, parce que la grande difficulté dans l'écriture, c'est que tant de choses ont été écrites, tant de choses ont été dites, il y a toujours le risque de ne faire que répéter quelque chose qui a été génialement fait auparavant, et ça me passionnait d'avoir encore ce terrain à défricher.
Mais que c'est un auteur homme des femmes? Comment faire parler une femme quand on est un homme?
Ben, un auteur homme ne sait rien des femmes, mais un auteur ne sait rien de rien. De toute façon, et un auteur découvre ce qu'il ne sait pas en l'écrivant. Alors naturellement, il y a le risque de se tromper, mais pour moi, l'écriture, c'est accepter d'aller vers cet inconnu et de rencontrer dans cet inconnu quelque chose qui a déjà été visité dans le mystère du souvenir, dans ce que les parents nous ont transmis, et peut-être aussi qui sait dans une femme que j'ai été dans une autre vie.
Parce que vous avez été une femme dans une autre vie?
Ce n'est pas impossible.
En tout cas, vous avez été une femme sur scène.
Oui, parce que j'ai été une femme dans une autre vie, dans un précédent spectacle, Médée poème enragé, j'incarne le personnage de Médée, et là encore, j'ai essayé de l'incarner sans la caricaturer, et en convoquant des souvenirs que je n'ai pas. Je pense qu'on peut convoquer des souvenirs qu'on n'a pas, ou se créer des souvenirs qui sont encore plus vrais que les vrais souvenirs.
Jean-René Lemoyne, en voyant votre pièce, Vent contraire, on a parlé de Dostoïevski tout à l'heure, moi j'ai pensé à American Psycho de Bret Easton Ellis qui racontait l'histoire d'un golden boy, ouais, devenu tueur en série et qui pouvait se décrire, il y avait comme ça des chapitres entiers qui pouvaient se décrire à partir de listes de noms, de listes, ouais, de restaurants, de listes de marques de vêtements, de musiciens écoutés. Donc en fait, il se définissait de l'extérieur et par un effet d'accumulation. Et j'ai le sentiment que le monde que vous décrivez, que tous ces personnages-là se décrivent aussi de cette façon-là. Pour Layla, qui est styliste, c'est une série de noms de stylistes, d'objets plus prestigieux les uns que les autres, ou de marques de vêtements plus prestigieux que les uns que les autres. Pour Rodolphe, qui est steward, c'est une accumulation de noms de villes dans lesquelles il ne fait que passer, mais ça lui fait une vie. Comme si les mots accumulés, l'argent accumulé aussi parfois peut faire une vie.
Oui, l'auteur que vous citez est un auteur que j'ai beaucoup lu, beaucoup admiré dans un autre livre aussi qui s'appelle Glamourama, où il fait toute cette litanie des objets qui sont des objets de notre époque, les objets du capitalisme, les objets qui remplacent la pensée maintenant. Et effectivement, dans Vent contraire, il y a cette chose, il y a tous ces objets auxquels les personnages s'agrippent faute d'avoir d'autres valeurs auxquelles se rattacher, et ils s'y agrippent en toute innocence, c'est-à-dire qu'il y a pas de jugement que je porte sur ces personnages, mais il y a effectivement une aliénation, une absence de pensée, une absence de rêve, une absence de, j'allais dire, de spiritualité qui fait que il s'engouffre dans ce matériel, et ce rapport à la société au consumérisme est peut-être la vraie histoire dont les histoires d'amour ne sont que le premier cercle pour arriver à vraiment à ce cercle d'objets qui devient un cercle de sang, pratiquement un cercle de douleur, un cercle de mort, un cercle de suicide, mais qui est la prison, la prison des objets dans laquelle sans doute nous nous trouvons.
Mais il n'y a pas de dénonciation, mais il y a quand même un constat qui est très vif.
Oui, il y a un constat qui est sans appel,
Ce monde nous empêche d'aimer presque.
Oui, je sais pas si ce monde nous empêche d'aimer, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je remarque dans Vent contraire, c'est que nous en sommes à la fois victimes et complices. Donc en fait, ce n'est pas une dénonciation du monde, c'est un portrait du monde. Ce ne sont pas des réponses par rapport à ce monde, ce sont des questions par rapport à ce monde. Et je pense que c'est la place de l'écrivain.
Un homme, cinq femmes. Il y a donc Marie, la femme qui quitte. Il y a Marthe, L'hôtesse de l'air, riche héritière, folle amoureuse de Rodolphe, qui ne l'aime pas vraiment, qui lui-même accumule des destinations car il est steward, on l'a dit, et il accumule aussi les femmes. Il va voir Salomé pour oublier. Salomé, l'étudiante qui se prostitue à ses heures perdues, qui réclame une totale liberté sexuelle, et va se donner à Leïla, qui a connu la gloire comme styliste, qui aime le luxe, les femmes, et qui va quitter sa jeune compagne pour la très vénéneuse Salomé. Voilà donc les six personnages de Vent contraire. Alors, disant cela, on peut peut-être un peu se perdre, mais c'est pas du tout le cas quand on lit la pièce ou qu'on regarde le spectacle, car chacun a un parcours très spécifique, très, très particulier, et j'ai demandé hier soir à Anne Alvaro, après le spectacle, comment définir son personnage, quels sont finalement, par un effet d'accumulation, les événements de sa vie.
Dans un premier temps, parce qu'il lui arrive, donc catastrophe financière, éjectée de son travail, ses origines qu'elle ne renie pas, mais elle vient de loin, et un désamour et un coup de foudre. On pourrait dire ça. Ça, ce serait presque des actions organiques ou psychologiques de son parcours. Après, la façon dont la pièce est construite et qui amène chaque acteur à être responsable du plan séquence dans lequel il rentre, il s'agit d'aller droit dans la cible tout de suite et d'être soit dans le masque, je parle de Leïla, soit dans le masque de la mondanité, de la figure d'un personnage qu'elle s'est construit complètement dans le monde dans lequel elle évolue, où elle est une reine et une artiste. Et soit, quand elle est avec sa compagne, qu'elle va certainement quitter, soit quand elle est dans sa boutique à faire essayer un costume, voilà, des choses comme ça. Après, c'est tous les mouvements de la pièce qui amènent chaque personnage à être dans la destruction, enfin dans le chaos. Tous les mots de la chanson de Mylène Farmer, ils résonnent très très fort.
Que diriez-vous de l'écriture de Jean-René Lemoine ?
Elle mérite et elle oblige à la respecter parce qu'elle est magnifiquement construite. C'est une langue. Donc cette langue, on ne peut pas la tordre, on peut, à force de la travailler, trouver sa syntaxe à soi, sa syntaxe intérieure à soi, pour respecter la syntaxe de l'auteur. Mais la syntaxe de l'auteur est plus forte, elle est très très construite.
Y a-t-il, Anne Alvaro, une question que vous n'avez pas posée dans le travail de répétition à l'auteur, un point d'opacité encore dans le texte qu'il vous faudrait résoudre?
En fait, moi, j'ai toujours pas résolu cette première scène où Leïla est seulement en écoute de Camille. Et cette séquence-là se termine par consolation de Leïla, baiser fougueux de Camille, Leïla se laisse faire. Je vais chercher tout le temps, hein, mais cette écoute de Leïla envers Camille, mystère. Je ne sais pas comment le remplir, s'il faut le remplir. Voilà, j'ai un rendez-vous avec cette énigme-là.
Jean-René Lemoine, que répondra Anne Alvaro? Est-ce que, alors que les répétitions sont terminées, que le spectacle a commencé, est-ce qu'il reste encore des énigmes à résoudre?
Je crois que l'opacité, c'est bien. Que être encore dans quelque chose qui n'est pas une clarté absolue, c'est sans doute intéressant, et que sans doute pendant les représentations des choses peuvent se déposer. Alors on est tous je suis très ému par ce que dit Anne, on est tous forcément différents. Moi, ayant connu ces situations là et ayant été beaucoup dans l'écoute, peut-être que ce qui me semble évident n'est pas si évident pour un interprète.
Mais écrire du théâtre, c'est écrire de l'opacité, de l'incompréhensible, ce que vous disiez un tout petit peu tout à l'heure, ou c'est au contraire essayer de rendre cette opacité lumineuse, éclairante, compréhensible?
Non, écrire du théâtre, c'est écrire quelque chose qui sera qui aura une limpidité, une lumière opaque, au plateau. Et ça nécessite de ne pas tout expliquer, de ne pas tout expliquer dans l'écriture. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la résistance. Enfin, c'est ce que j'aime quand je lis Coltès ou quand je lis Claudel, c'est que ça, quelque part, ça, c'est âpre à la lecture seule, et c'est comme une partition musicale qui se révèle quand elle est jouée, mais les notes écrites ont quelque part quelque chose de mystérieux et peuvent avoir quelque chose d'aride.
Anne Alvaro faisait référence au cinéma à propos de votre écriture. Alors, vous avez travaillé un petit peu pour le cinéma, notamment avec Raoul Peck, mais ce n'est pas votre activité principale. Vous êtes vraiment un auteur de théâtre et un metteur en scène. Pourquoi écrire du théâtre ? C'est par ailleurs une histoire familiale, hein, parce qu'on est écouté actuellement en Haïti, et votre sœur Michèle Lemoine est aussi auteur-metteur en scène. Elle est d'ailleurs à l'affiche du Festival Quatre Chemins qui a commencé il y a quelques jours et jusqu'au début du mois de décembre. Oui. Vous n'avez pas du tout le même parcours, mais en même temps, comment se fait-il qu'un frère et une sœur écrivent du théâtre ?
Alors, je crois que c'est moi qui lui ai inoculé le virus.
Donc, le petit frère à la grande sœur.
Le petit frère à la grande sœur. On a toujours été extrêmement proches. Et sans doute, on a, à un certain moment de notre vie, on a partagé ça. Pourquoi écrire du théâtre? Il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est que le théâtre n'est pas reproductible. La représentation a quelque chose d'éphémère. Et dans notre monde où tout peut être démultiplié, où tout peut être rentable parce que la copie peut être démultipliée, il y a quelque chose qui résiste sublimement à ça dans le théâtre. Et je n'ai rien contre les choses qui peuvent être copiées, multipliées, mais j'aime bien cette solitude de la représentation, solitude dans le sens que il y en a une seule, et même s'il y en a 100, elles sont chaque fois différentes, et qu'on ait mal au ventre ou qu'on soit enrhumé, on est obligé de se coltiner cette chose en arrivant à 19h ou à 20h pour la représentation. Et cet exploit sans cesse retrouvé, réitéré, reperdu, etc., c'est quelque chose que je trouve à la fois héroïque et poétique. Et c'est pour ça que je réponds à nouveau à Anne, qui sait si à la troisième, à la quatrième représentation, il n'y a pas quelque chose qui éblouit et qu'on comprend. C'est pour ça que je fais du théâtre. Après, le cinéma est une chose qui me passionne et qui nourrit maintenant l'écriture théâtrale. Et puis peut-être que j'écrirai un jour un roman.
Je vais rebondir, Jean-René Lemoine, sur le mot de solitude que vous évoquez, parce que vous avez écrit beaucoup de monologues dans le très beau Face à la mer, récit après la mort de votre mère, récit de votre propre vie et de la vie, spectacle que vous avez d'ailleurs joué en Haïti. Aujourd'hui, c'est une pièce chorale. C'est un choix délibéré ou c'est arrivé aussi comme ça? Et finalement, est-ce que toutes les paroles, de la plus intime à la plus extérieure, sont possibles au théâtre?
Oui, de toute façon, je crois que j'écris toujours sur les mêmes sujets et que ce sont les formes qui sont différentes. Et en italien, il y a une expression qui dit « il faut pas vivre de ses rentes ». C'est-à-dire quand on a exploré quelque chose, il faut prendre des risques, prendre la tangente et même prendre le risque de se casser la figure. Et si je pense à un immense dramaturge qui est Shakespeare, chez Shakespeare, il y a des comédies, il y a des tragédies, il y a des comédies qui sont des tragédies, mais il y a, comment dire, il y a des esthétiques radicalement différentes et ce parcours m'intéresse parce que je suis tout cela à la fois.
Mais prendre des risques avec une telle distribution et des comédiens aussi formidables que ceux que vous avez, Anne Alvaro, Nora Krief, Nathalie Richard, Alex Descas, Océane Kerati ou Marie-Laure Crochant, c'est quand même pas prendre beaucoup de risques. Je trouve.
C'est-à-dire que la chose merveilleuse, c'est qu'ils ont pris les risques avec moi et que l'immense talent qu'ils apportent fait qu'on peut prendre tous les risques et qu'on peut sauter de très haut et qu'on va quelque part.
Merci beaucoup Jean-René Lemoine. Vent contraire ce jour à l'AMC 93 à Bobigny jusqu'au 24 novembre, puis en tournée. Le texte est publié au Solitaire Intempestif. Pascal Paradou, Véronique Durand, Guillaume Ploquin, à demain.